écoutez France Culture, il est 6h. Un autre jour est possible avec Toufik Hakem jusqu'à 6h30.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jeudi 14 juin, un autre jour est possible avec au programme sur France Culture jusqu'à 6h30, Albert Einstein et Albert Einstein. D'abord, la vie et l'œuvre du grand physicien racontée par François de Closet, c'est-à-dire la biographie officielle, aujourd'hui 14e épisode. Et puis ensuite, avec mon invité José Rodriguez de Santos, de passage à Paris pour la promotion de son roman La Formule de Dieu, il sera aussi question d'Albert Einstein, personnage central et historique d'une fiction à la Dan Brown entre religion et science. Mais tout de suite, François de Closet.
Nous allons replacer le curseur en 1920, l'année, vous le savez, du grand basculement dans la vie d'Einstein. En 1919, il était inconnu et heureux de l'être. En 1921, il est célébrissime. Voilà le premier bouleversement. Et voici maintenant le second. En 1917, Einstein est un mauvais juif, c'est-à-dire un juif qui a rompu avec sa tradition. Et en 1921, il est accueilli à la Maison-Blanche par le président des États-Unis en tant que représentant du peuple juif. Il dit « J'ai découvert que j'étais juif à l'âge de 35 ans lors de mon arrivée en Allemagne et cela me fut davantage révélé par les non-juifs que par les juifs. » L'histoire est classique. Il est né dans une famille juive, germanisée, ses parents ont rompu avec la tradition, il ne reçoit aucune éducation spécifiquement juive. Et donc il est devenu un libre penseur mondialiste qui a rejeté toutes les religions, toutes les traditions juives comprises. Notez d'ailleurs que ce comportement n'a rien d'exceptionnel ou d'original. Toute la bourgeoisie juive allemande suit ce processus de germanisation qui, espère-t-elle, devrait lui permettre d'en finir avec 2000 ans de persécution. Que les juifs cessent d'être juifs et les antisémites cesseront d'être antisémites, cela va de soi. En ce début de 1920, l'apothéose d'Einstein se trouve correspondre avec la résurgence en Allemagne d'un antisémitisme qui trouvera, on le sait, son aboutissement dans le nazisme. Parce que l'extrême droite accuse les juifs d'être responsables de la défaite, d'avoir, comme elle dit, donné à l'armée un coup de poignard dans le dos. Des Allemands, toujours plus nombreux, cherchent dans cette haine du juif un dérivatif aux misères individuelles, à l'humiliation collective. Et tout naturellement, cette haine va se focaliser sur le juif le plus célèbre qui se trouve en outre être antimilitariste, pacifiste et socialiste. Ainsi, dès le mois de février 1920, les attaques commencent, ses cours sont chahutés, interrompus, et c'est le signal qui annonce la tempête. Le réveil est terrible pour Einstein, comme d'ailleurs pour des milliers de juifs allemands qui ont troqué leur identité traditionnelle pour la culture germanique. Ils découvrent qu'il ne dépend pas de lui d'être ou de ne pas être juif. Ce sont les antisémites qui désignent l'ennemi. Et là, dans le combat, dans l'instant, il forge sa conscience juive. Il décide de revendiquer cette identité juive à laquelle pourtant il avait renoncé. Et cette revendication n'est pas seulement un défi qu'il lance aux antisémites. Il lance également ce défi à la communauté juive allemande. Car cette bourgeoisie juive allemande, eh bien, elle ne veut voir dans cette poussée d'antisémitisme qu'une crise passagère. Elle s'entretient dans l'illusion d'une assimilation complète. C'est pourquoi, d'ailleurs, elle fait preuve de la plus grande indifférence vis-à-vis des juifs d'Europe de l'Est qui fuient les persécutions et qui viennent chercher refuge en Allemagne. Il ne faut surtout pas les considérer comme des frères, hein, surtout pas protester contre le traitement indigne que leur réserve la République de Weimar. Et là, c'en est trop. Einstein prend publiquement la défense des malheureux juifs réfugiés. Et la rupture définitive intervient dès le mois d'avril 1920. Einstein reçoit une invitation de l'Association centrale des citoyens allemands de confession juive. Sa réponse m'en claque. C'est un soufflet et en même temps un acte de foi. Ce qu'il dénonce, cette réduction de l'identité juive à un particularisme religieux, et en même temps ce manque de solidarité vis-à-vis des frères qui affluent de Russie, d'Ukraine ou de Pologne. « Moi, dit-il, je suis juif. Je suis heureux d'appartenir au peuple juif, même si je ne le considère pas comme le peuple élu. » En vérité, les antisémites ne lui laissent guère le choix parce qu'ils se déchaînent contre lui dans cette année 1920. Il y a en particulier un agitateur professionnel, Paul Weiland, qui met sur pied une véritable campagne anti-Einstein. Et le pire, c'est que Weiland reçoit le soutien de deux physiciens éminents, deux prix Nobel, et qu'Einstein tenait en grande estime. Tout d'abord, il y a Philippe Lenard, dont les expériences sur l'effet photoélectrique ont inspiré ses découvertes sur les quanta. Il y a aussi Johannes Stark, qui en 1907 lui avait commandé le grand article de synthèse sur la relativité. Et donc, le 25 août 1920, Lenard fait organiser par Weiland à la Philharmonique de Berlin un grand meeting contre la relativité et sous le signe de la croix gammée. Eh bien, figurez-vous qu'Einstein, courage et inconscience mêlés, Einstein se met dans un fauteuil au fond de la salle, assiste à la réunion, et donc il s'entend qualifié de plagiaire, de charlatan, de faux savant, assoiffé de publicité. Il s'esclave, il applaudit même. Mais en fait, il est beaucoup plus affecté qu'il ne prétend le laisser paraître. Et puis, Lenard va attaquer Einstein sur le plan scientifique. Il l'accuse d'avoir volé la fameuse équation E égale MC2, de l'avoir volé à un physicien autrichien, Friedrich Hassenhorl, mort au combat pendant la guerre. Oui, le juif Einstein aurait dépouillé un héros germanique. Bon, en fait, le pétard fait long feu, parce que de son vivant, Hassenhorl professait la plus grande admiration pour Einstein et n'a jamais contesté son antériorité. Et pourtant, entre nous, Einstein était très vulnérable sur ce point, parce qu'il a bel et bien rejeté dans l'ombre le co-auteur de la théorie, le français Henri Poincaré. Mais par chance pour lui, Lenard n'est pas moins nationaliste qu'antisémite. Et il n'entend pas dépouiller de ses lauriers un juif pour célébrer un français. Donc, Einstein peut parer cette botte qui, autrement, aurait pu être dangereuse. Sur ces entrefaites, les jurés de Stockholm élisent en 1922 Einstein comme prix Nobel de physique. Et alors là, curieusement, ils ne couronnent pas la relativité, mais les travaux sur les quanta, travaux qui se sont donc inspirés des études de son pire ennemi, Philippe Lenard. Dans les années suivantes, Einstein sera l'objet d'un harcèlement constant. Les hommes de Weiland le guettent devant son domicile. Ils surgissent à tout moment, ils l'invectivent, ils le menacent. En fait, non, sa vie est en danger. Et parfois, il doit renoncer à faire des cours, à prononcer des conférences. En fait, Berlin est devenu pour lui une ville dangereuse, maléfique. Alors vous me direz, il tiendrait qu'à lui d'aller s'établir à l'étranger. Ouais, mais ce serait fuir devant l'ennemi. Et donc, avec un courage tranquille, il choisit de rester. Seulement, il profite des innombrables invitations qu'il reçoit de partout dans le monde pour partir faire de longs voyages loin de l'Allemagne et de ses démons. Et Einstein ne se contente pas de répliquer aux antisémites et de polémiquer avec les juifs allemands. Il est également, vous l'avez vu, bouleversé par le sort des juifs maltraités dans les pays de l'Est. Et c'est bien en pensant à eux qu'il va rejoindre le mouvement sioniste. Donc le rêve sioniste a pris consistance en 1917, lorsque les Britanniques, par la fameuse déclaration Balfour, se sont engagés à créer un foyer de peuplement juif en Palestine. Einstein accueille favorablement l'idée de ce refuge pour les Juifs de l'Est, mais ce rêve de retour en Israël, évidemment, n'intéresse pas du tout la bourgeoisie juive allemande qui n'imagine son avenir que dans le pays. En 1920, alors qu'il vient d'accéder donc à la célébrité, le mouvement sioniste sollicite son aide pour construire à Jérusalem une université hébraïque. Et Einstein est enthousiasmé par le projet et il accepte d'accompagner le président du mouvement sioniste, Chaim Weizmann, dans une tournée américaine destinée à collecter les fonds nécessaires. Pour lui, hein, il ne s'agit pas d'un voyage de plaisir. C'est un devoir, c'est une obligation. Seulement, sitôt que la nouvelle est rendue publique, elle provoque la consternation dans la bourgeoisie juive allemande. Son grand ami, le chimiste Fritz Haber, d'origine juive comme lui, lui fait valoir que ce voyage va braquer les antisémites qui, plus que jamais, vont confondre juifs allemands et juifs étrangers. On se doute bien que l'argument ne peut que conforter Einstein dans sa détermination. Le voilà donc qui arrive à New York en avril 1921, qui traverse la ville au milieu d'un cortège de voitures jouant de l'avertisseur sonore sous des applaudissements qui, bien sûr, se transforment en ovations lorsqu'il traverse le quartier juif de Brooklyn. Einstein, lui, est ahuri autant qu'amusé. Et il doit aussi se confronter à la presse américaine. Et là, il l'a séduit par son humour, sa bonhomie. En fait, l'Amérique l'a adopté, sa tournée est triomphale. Et puis, lors des banquets, il collecte de l'argent auprès de la bourgeoisie juive américaine. Il réunit ainsi le million de dollars nécessaire pour commencer la construction de l'université hébraïque sur le mont Scopus à Jérusalem. Il a séduit l'Amérique et il a aussi été séduit par l'Amérique. Voici donc Einstein devenu juif et sioniste. Et ça ne va pas de soi. Tout d'abord, la revendication de son identité juive ne fait pas de ce libre penseur un juif pieux à l'ancienne. Il va donc se construire une identité juive, une judéité à sa manière, en puisant, je dirais, dans la tradition ce qui lui convient et puis en oubliant le reste. À l'arrivée, on pourrait lire sur les tables de la loi einsteinienne « La recherche scientifique, tu vénéreras, le socialisme, tu pratiqueras, le pacifisme, tu défendras, ta destinée personnelle, tu accompliras ». Ce n'est peut-être pas très cachère, mais cela lui permet de devenir juif tout en restant lui-même. Le sionisme lui pose une autre sorte de problème. Dans sa logique, il doit aboutir à la formation d'une nation, d'un État, d'une armée. Or, Einstein est contre les nationalismes, se méfie des États et déteste les armées. Et il ne souhaite pas faire une exception pour les Juifs. Il va donc s'entretenir dans le rêve d'une Suisse palestinienne multiconfessionnelle où juifs et arabes cohabiteraient pacifiquement et même fraternellement. Il entretient donc des illusions sur la Palestine. En revanche, il n'en a aucune en ce qui concerne l'Allemagne, hein, contrairement aux juifs allemands qui ne croient pas que l'antisémitisme puisse durer et s'aggraver. Et au fond, il sait qu'il devra s'exiler. Il a même choisi son refuge. L'Amérique deviendra sa nouvelle patrie. Son américanisation, en fait, elle a commencé dès 1930, lorsqu'il a accepté d'aller tous les ans donner un trimestre de cours au Californian Institute of Technology, le Caltech, à Pasadena, dans la banlieue de Los Angeles. Lorsqu'il revient à Berlin en 1932, après son deuxième séjour californien, le péril nazi se fait plus pressant. Il lance un appel à la gauche allemande pour former un front populaire. C'est le seul moyen de faire barrage à la vague brune. Peine perdue, la gauche divisée et laminée, Hitler arrive aux portes du pouvoir. Einstein y est en danger, car les nazis ont bel et bien décidé sa perte. Elsa le supplie de renoncer à toute activité politique. Il refuse, il s'emporte. « Je ne veux pas passer pour un quoi ». Il n'empêche. À l'automne 1932, donc il quitte l'Allemagne pour son troisième séjour californien, et au moment de quitter la belle maison de bois qu'il s'est fait construire au bord d'un lac à Caputh, près de Potsdam, Einstein se retourne vers son épouse. Elsa, lui dit-il, Elsa, regarde bien cette maison. Tu ne la reverras plus. C'est donc à Pasadena qu'il apprend la nomination d'Hitler au poste de chancelier, aussitôt il décide de ne plus rentrer en Allemagne. D'ailleurs, sitôt arrivé au pouvoir, les nazis mettent à sac la maison de Caputh, l'appartement de Berlin, ils saisissent ses biens, ils mettent sa tête à prix. Donc, revenu en Europe, il se réfugie un temps en Belgique. Que va-t-il faire ? Paris lui fait des avances, un poste au Collège de France, mais non, finalement, il accepte la proposition américaine d'aller à Princeton dans l'Institut pour les études avancées en voie de création. Nous reviendrons sur sa vie aux États-Unis et notamment sur la part qu'il a pu prendre dans la genèse de la bombe atomique. Nous y reviendrons plus tard. Pour le moment et tout de suite, nous allons nous reporter à 1945. On se souvient qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, il avait plaidé en faveur de l'Allemagne pour qu'elle retrouve au plus vite son statut dans le concert des nations. Eh bien, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'inverse. Les Alliés aident le vaincu à se relever, alors qu'Einstein, lui, voue à l'Allemagne une haine imprescriptible. Écoutez-le, c'est en tant que peuple dans son entier que les Allemands sont responsables des massacres. Derrière le parti nazi, il y a le peuple allemand qui a voté pour Hitler. Jamais il ne pardonnera. L'horreur nazie, en fait, lui a inspiré un sentiment qui lui est très étranger, la haine, et donc un sentiment qu'il ne parviendra jamais à maîtriser. Oui, le crime contre l'humanité, c'est aussi celui d'avoir retiré à des milliers de justes comme Einstein une parcelle de leur humanité. Et puis, en 1947, l'ONU vote la création de l'État d'Israël et Einstein veut y voir l'accomplissement de nos rêves. Donc, bien sûr, il soutient les Israéliens dans la guerre contre les Arabes. Par la suite, sa pensée le rapprochera toujours davantage d'Israël, qui deviendra l'ultime, peut-être la seule patrie de ce juif errant. Lorsque Chaim Weizmann, le premier président d'Israël, meurt en novembre 1952, le premier ministre David Ben-Gurion pense à Einstein pour le remplacer à ce poste. La proposition lui est transmise très officiellement par l'ambassadeur Abba Eban, Einstein, chef d'État. Bien sûr, il refuse en invoquant de très réels ennuis de santé seulement. Il dit aussi à sa belle-fille, « Si j'avais été leur président, il m'aurait fallu leur dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. » En 1955, Einstein voudrait adresser aux Israéliens un message radiodiffusé pour le 7e anniversaire de leur État. Le 13 avril, il en commence la rédaction. Et puis, il bute sur une phrase. Les passions politiques, une fois attisées dans les flammes, exigent leurs victimes. Là, il est pris de douleur, il s'effondre, il doit être hospitalisé. Il meurt 4 jours plus tard, signe du destin. Son travail s'est arrêté sur la pensée d'Israël. Et c'est tout naturellement l'Université hébraïque de Jérusalem qu'il désigne comme destinataire final de ses archives. L'antisémitisme a fait de cette brebis égarée d'Israël le défenseur acharné de la tribu.
Suite de notre série consacrée à Albert Einstein, demain, bonjour José Rodriguez de Santos.
Bonjour.
Vous aussi, vous parlez d'Albert Einstein et d'une rencontre historique qui a eu lieu en 1951. David Ben-Gourion, alors Premier ministre de l'État d'Israël, veut rencontrer le grand physicien Albert Einstein et l'objet de la visite qui va se dérouler à Princeton, c'est bien sûr d'obtenir l'arme nucléaire.
Oui, bon, cette partie, c'est la fiction. Leur rencontre a eu lieu à Princeton et ils ont parlé de Dieu, les deux grands hommes. Mais dans le roman, je mets les hommes de CIA qui enregistrent en secret cette conversation entre Einstein et Ben-Gurion et cette conversation sur Dieu et sur une arme atomique. C'est le point de départ de mon roman, La Formule de Dieu.
Voilà, un roman qui se déroule sur plusieurs époques parce qu'on va retrouver cette formule de Dieu, ce principe, ce document qui n'a jamais existé mais qui fait l'objet de votre roman à suspense 60 ans plus tard.
Oui, un jour, aujourd'hui, à Caire, en Égypte, notre héros, Thomas, il est interpellé par une beauté iranienne qui fait un contrat avec lui pour aider l'Iran à déchiffrer un manuscrit inconnu d'Einstein qui s'appelle « La formule de Dieu ». Et les Iraniens, ils pensent qu'il a une relation avec la bombe atomique. Mais finalement, dans le roman, on trouve que ce n'est pas ainsi. C'est Einstein et sa quête pour la prouve scientifique de l'existence de Dieu.
Voilà. Alors, vous avez travaillé sur quels éléments ?
Sur la science, il y a un côté d'histoire d'espionnage, histoire de, avec relation avec le projet nucléaire iranien, d'histoire d'amour, mais il y a un autre côté qui est non fictionnel, au sujet des informations scientifiques, de recherche de Dieu. C'est vraiment le grand sujet du roman.
Est-ce que ça a été la grande question d'Albert Einstein ?
Je pense que c'est la grande question de l'humanité.
Oui ?
Parce que vous savez, si l'univers il est un accident, Dieu il n'existe pas et il n'y a pas un sens dans la vie. C'est tout un hasard. Mais si Dieu existe, il y a un sens la vie et c'est pas un hasard les choses. Et alors c'est une très grande demande et je pense que c'est la dernière demande de la science. Je pense que Dieu n'est pas aujourd'hui un problème religieux, mais un problème scientifique.
Ouais, ça n'était pas à l'époque d'Albert Einstein.
Non, mais quelques découvertes ont été faites au sujet de Dieu, surtout plus récemment. Mais dans la fiction du roman, je dis qu'Einstein a découvert des choses. En réalité, ces choses ont été découvertes plus récemment et qui montrent que l'univers il est intentionnel. Et s'il est intentionnel, ça veut dire qu'il y a un créateur, ouais. Quoi qu'il soit.
Mais pour moi, Albert Einstein était athée, comme tout bon scientifique qui se respecte.
Non, ce n'est pas très vrai. Il était juif, mais il ne croyait pas au Dieu de la Bible, mais il croyait au Dieu de Spinoza. Ça veut dire que Dieu est tout. Nous sommes une partie de Dieu, les étoiles sont une partie de Dieu. Il n'y a pas une dichotomie entre Dieu d'un côté et le monde de l'autre. Le monde est Dieu, la nature est Dieu. C'est le concept de Spinoza, d'Einstein, et des philosophies orientales comme le bouddhisme et l'hindouisme qui pensent ainsi aussi.
Alors votre roman, La Formule de Dieu, s'apparente beaucoup plus à un roman d'espionnage, où la religion joue un rôle, où les faits historiques sont utilisés pour mieux avancer dans la fiction, à la manière de Dan Brown, bien sûr, à la manière
d'un... Non, mais jamais je change les faits historiques, tandis que Dan Brown le faisait. Je respecte l'information historique et l'information scientifique. Elle est réelle et genuine dans le roman.
Alors plutôt comme Umberto Eco.
Oui, bah, plutôt comme Umberto Eco, c'est vrai.
Alors, votre roman a eu un succès fou au Portugal. Question, José Rodrigues de Santos, est-ce que parce que vous êtes très connu au Portugal, vous présentez les informations, le grand journal du soir, vous avez une émission littéraire, est-ce que c'est ça qui a fait le succès de votre livre ou bien le fait qu'on pose la question religieuse?
Je pense que ça aide au Portugal, mais je suis publié en 18 langues et en 17 langues, personne ne me connaît. Alors, c'est pas seulement ça. Je pense que c'est une question universelle. Le sens de la vie, l'existence de Dieu. Et comme je dis, c'est pas vraiment un problème religieux de mon point de vue et dans le point de vue du roman, car c'est un thriller philosophique et scientifique.
C'est vrai, c'est un thriller. Mais n'empêche, au Portugal, qui est un pays quand même très attaché à la religion, comment ce roman a été accueilli en plus du succès populaire? Est-ce qu'il a été critiqué? Ça fait l'objet de discussions ou
oui, ça fut le livre plus vendu au Portugal dans l'année 2006. Non, pas de critique. À vrai dire, le Portugal aujourd'hui est un petit peu différent de ce qu'on imagine. C'est un pays où la religion n'a pas très grande force aujourd'hui. Mais c'est un roman qui nous ouvre les yeux à un tas de sujets sur la vie, parce qu'il nous présente des questions et des réponses vraies au sujet de l'intentionnalité de l'univers et du rôle. Pourquoi est-ce que nous existons? Nous existons pour manger des pommes frites, pour écouter France Culture. Qu'est-ce que nous faisons ici? C'était la grande question de ce roman. Et c'est une grande question de l'existence humaine.
Vous en êtes où au niveau spirituel, José Rodrigues de Santos? C'est-à-dire, quand vous vous posez à vous-même ces questions, c'est quoi les premiers éléments de réponse qui vous viennent à l'esprit?
Science. Science. Je pense que la science est notre dialogue avec Dieu. Quand je veux parler avec Dieu, je ne parle pas en portugais ou en français. Je parle avec des expériences. Je fais une expérience et le résultat de l'expérience, c'est la réponse de Dieu au sujet de l'univers et de comment les choses sont faites. Par exemple, si je demande à un scientifique « c'est quoi l'univers ?», il me dira « sont des étoiles, des galaxies, des planètes, des électrons, des protons ». Et c'est la mécanique. Mais c'est lequel le programme? Et quand je fais la formule de Dieu, c'est montrer le programme. Ne parlez pas, ne montrez pas la mécanique de l'univers, mais le programme. Comme dans la radio, il y a des programmes qui sont la vraie radio. C'est le software qui est beaucoup plus important que le hardware, que la mécanique de la radio.
Si je dois résumer votre pensée, José Rodrigues de Santos, plus entre Dieu et vous-même, les canaux, ce ne sont pas les religions, mais la science.
La science, oui. Je pense que Dieu est un problème scientifique.
Ben voilà, c'est bien résumé. Merci d'être passé. La formule de Dieu, c'est donc le roman de notre invité ce matin, José Rodrigues de Santos. C'était Un autre jour est possible, émission à réécouter ou à télécharger en passant par franceculture.fr et en vous laissant guider jusqu'à la page Un autre jour est possible. Aujourd'hui, réalisé par Stéphane Roxin avec à la technique Delphine Baudet. Émission préparée avec Catherine Madure et Arthur Bédouin. Dans un instant, les premières informations du jour. Tout de suite après, Marc Vanchet. J'espère vous retrouver demain. Bonne journée sur France Culture. Merci d'être passé.
Merci.